donnait donc une raison par rapport à la création du monde. Une des raisons, c'était que Akadosh Baruch Hu a eu une envie de donner. Il a eu une envie de la nature, donc du bien pour faire le bien. On est sur ça, on a posé une question, on a dit oui, mais alors quoi, ça veut dire quoi? Il a envie de donner, il n'y a personne à qui donner, alors il crée la personne à qui donner. Ça ne répond pas à la question. Qu'est-ce qu'il a de ça? Qu'est-ce qu'il a de ça? En quoi on l'intéresse? Qu'est-ce qu'on lui donne? En quoi moi j'intéresse Dieu? Qu'est-ce que je lui donne? Je suis un peu cru, mais c'est une question très simple. En quoi qu'est-ce que je lui apporte? Je lui apporte rien du tout.
Pour le servir.
Imaginez par exemple, je vous donnerai un exemple, mais que je donne la semaine dernière, un peu cru. Et imaginez par exemple une fourmi. Imaginez que vous prenez une fourmi, vous l'amenez chez vous à la maison sur votre table de votre salon. Mais qu'est-ce qu'elle a m'apporté cette fourmi? Alors imaginez que nous, on est encore moins qu'une fourmi devant Dieu. Alors qu'est-ce que moi je peux bien apporter à Dieu? Ça, c'est la question qu'on a posée. Alors, on a commencé à répondre. On a dit que Akadosh Baruch Hu, il a eu une envie. C'est pas quelque chose qui s'explique, c'est une envie. Quelle envie il a eu? Il a eu une envie de créer une demeure, ça veut dire de se faire une maison, une résidence principale, Bet Artonim, ici-bas. Ça veut dire quoi? On a expliqué longuement la semaine dernière que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il apprécie particulièrement, c'est l'innovation. Le fait qu'un ange le serve, c'est pas nouveau. Puisque l'ange, il n'y a pas d'obstacle qui l'empêche de servir Dieu. Donc quand un ange sert Dieu, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc c'est pas quelque chose qui procure un plaisir à Dieu. Qu'est-ce qui procure du plaisir? C'est lorsque c'est quelque chose de nouveau. On avait donné plusieurs exemples la semaine dernière. On va pas résumer en 2 minutes, on a fait en 1 heure et demie, mais on a résumé en 2 minutes, on a donné un exemple. On a dit par exemple, lorsqu'il y a un enfant qui commence à marcher, on est content de le voir marcher. Pourquoi? Parce que c'est nouveau. Attends, ce même enfant, dans 2 ans, dans 3 ans, il court dans tous les sens. Qu'est-ce que tu lui dis? Arrête de courir. Pourquoi? Parce que c'est plus nouveau. On avait donné aussi l'exemple d'un roi qui veut un petit peu passer le temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un perroquet. Il va commencer à parler au perroquet. On voit les gens, vous savez, quand on va au zoo, quand on va même dans les... On voit les gens parler au perroquet. Tu vois, des gens, ils saturent, comme tu vois, des gens en cravate et tout, ils parlent au perroquet. Pourquoi? Pourquoi c'est amusant? Pourquoi c'est amusant? Si tu lui dis bonjour, il te répond bonjour.
Qu'est-ce que c'est amusant?
Parce que c'est nouveau. C'est une innovation. Alors, de la même façon, pour Akadosh Baruch Hu,
il tente la réponse.
Alors voilà, de la même façon pour Dieu.
Il y a une tentation d'avoir une réponse.
Attends, je résume, j'ai une seconde.
D'accord.
Donc, de la même façon par rapport à Dieu, le fait qu'un ange accomplisse sa volonté, c'est pas nouveau. Par contre, un homme qui évolue dans un monde, dans un endroit dans lequel la présence de Dieu n'est pas ressentie. C'est pas que Dieu n'est pas là. Dieu est aussi présent en haut qu'en bas, la même chose. Mais dans le monde ici-bas, la présence de Dieu n'est pas autant ressentie. Donc, on va dire, servir Dieu n'est pas le choix naturel. C'est pas la réaction naturelle d'une personne. Dans un monde dans lequel la réaction naturelle d'un homme n'est pas de penser à Dieu, mais c'est plutôt de penser
à soi.
Dans un monde comme ça, faire le choix de dire, je veux faire un Shabbat, je veux faire la Torah, je veux faire des mitzvot, je veux penser à l'autre, je veux faire une mitzvah, je veux faire la tzedaka. Pour Dieu, il dit, c'est nouveau. C'est quelque chose de nouveau, ça. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas un choix naturel. Donc, c'est un plaisir, c'est un plaisir pour le cadeau, je comprends. Ok. Alors, on a expliqué la chose suivante. Et là, on est rentré un petit peu dans les complications. On a dit que, pour créer tout ça, à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il était obligé de faire ce qu'on appelle un système de Ishtalshelut. Alors là, j'ai pas eu le temps de rentrer dans la semaine, donc maintenant je vais rentrer dedans un petit peu à l'oral. C'est quoi Ishtalshelut? À la base, Dieu est infini. Donc devant l'infini divin, personne ne peut tenir. Ni un homme, ni un ange. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est tellement grand que rien ne peut tenir devant lui.
Ça veut dire quoi, rien ne peut tenir?
C'est impossible. C'est comme par exemple, imagine-toi, tu viens devant le soleil. Tu brûles.
Une énergie trop.
C'est une énergie tellement puissante que tu peux pas tenir devant. Tu comprends? Un exemple. Par exemple, l'électricité qui est ici, d'accord, c'est le 220 volts. D'où il tire son énergie? Il tire son énergie du compteur. Le compteur, d'où il tire son énergie? D'un autre compteur qui est en bas. Et lui, d'où il tire son énergie? Etc, etc. Tu ne remontes qu'à la centrale. Et la centrale, d'où il tire son énergie? Probablement du nucléaire. En France, aujourd'hui, on est très, très centré sur le nucléaire. Maintenant, si je dis, je vais prendre directement mon téléphone portable et je vais le brancher directement à la centrale nucléaire, qu'est-ce qui se passe avec mon téléphone portable?
Il va
exploser. Pourquoi? Pourtant, mon téléphone portable, je le charge bien avec l'énergie de l'électricité qui vient de là-bas. Quelle est la différence? Seulement, avant de venir jusqu'ici, il y a eu un enchaînement. C'est-à-dire, d'abord, il y a eu la centrale. Après, dans la centrale, le signal a été traité pour être réduit. Mais déjà, même dans les bornes qui passent, déjà, un très, très haut voltage. C'est énorme. Mm-hmm. Et après, progressivement, plus on passe de niveau en niveau, et plus, jusqu'à que tu arrives à la prise, tu as du 220 volts. Et après, il faut encore une prise qui est un adaptateur qui va adapter le 220 volts, qui va te donner du 5 volts. Vous voyez qu'est-ce qu'on voit dans cet exemple? On voit que quand tu as une énergie trop puissante, ça explose. Ça ne peut pas tenir. De la même façon, Akadosh Baruch Hu, il est tellement grand que s'il ne descend pas, il ne s'adapte pas, personne ne peut tenir devant lui. Tout le monde explose. Ça ne peut pas tenir. Ni les hommes, ni les anges, ni personne. Et c'est ça ce qu'on explique dans la Kabbalah, le concept, je ne vais pas rentrer dedans parce que ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais le concept de Seder Ishtalshelut. Ishtalshelut, ça veut dire l'enchaînement des mondes. Et en fait, on parle dans la Kabbalah de vêtements. Hein, justement, Joseph, on parle de vêtements. Chaque fois qu'on prend un vêtement, ça veut dire que Dieu prend une forme, et après une autre forme, et après encore une autre forme, après encore une autre forme. Chaque fois une couche, pour que ce qu'il y a à l'intérieur soit le moins visible possible. Ça, c'est d'accord? On a compris. Ça, c'est le système. Alors, quand on arrive ici-bas sur Terre, si vous voulez, l'énergie divine a pris tellement de vêtements, que du coup, on voit plus ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà ce qui se passe. C'est pas qu'il n'est pas là, Dieu est toujours présent, mais il y a eu des vêtements, jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu, il n'est plus visible. Il est toujours là, mais il n'est plus visible. Alors, lorsque tu as un ange qui va servir Dieu, c'est quoi l'ange? L'ange, c'est lorsque Dieu, il était couvert par un vêtement, deux vêtements, trois vêtements. Donc là, on le sent encore. Mais nous, on est déjà à des milliers de vêtements, c'est-à-dire on ne le sent même plus à Kadosh Baruch Hu. Donc là, servir Dieu est un choix qui est impopulaire. C'est pas le choix naturel, c'est pas le choix classique. Et là, il te dit, servir à Kadosh Baruch Hu à ce niveau-là, notre monde, le monde dans lequel on vit, il faut bien le savoir, c'est le monde le plus bas qui puisse exister. Il n'y a pas plus bas que nous. Ça veut dire, imaginez, Dieu, depuis la création du monde, vous descendez, je crois, jusqu'à le plus bas possible, c'est nous. Il n'y a pas plus bas que nous. On aurait pu se dire, peut-être qu'après nous, après les êtres humains, après la création de notre monde, peut-être qu'il y a encore quelque chose de plus bas. Il n'y a rien qui soit plus bas que nous. Ça n'existe pas. D'accord? Bonsoir, monsieur Guinness, bienvenue.
Mazal Tov. Merci de m'avoir invité.
Ça mérite une bouteille.
C'est le moment. Regarde,
frigo. Bon. Khazak. S'il y a une bouteille, on sortira tout à l'heure. C'est un grand Mazal Tov. Elle m'a annoncé Khana tout à l'heure.
Merci. Il y a une bouteille.
C'est quand, c'est aujourd'hui, c'est ça?
À l'instant.
Oui, elle m'a annoncé Khana.
À l'instant, tu me l'as dit avant 2 heures. Non, mais je me suis trompé dans l'heure. C'était vers 10h30.
Ouais.
Excusez-moi de vous avoir coupé.
Il n'y a pas de problème.
Il y avait un petit garçon déjà.
Dieu lui donne des grands miracles.
Claude. Hein? Il y avait un petit garçon déjà.
C'est
sa garçon.
Merci.
Voilà.
Dieu est grand. 129.
Alors, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a dit que le monde dans lequel on vit, dans tout l'enchaînement des mondes, ce que j'appelle l'enchaînement des mondes, ça veut dire, vous savez que il y a Dieu, d'accord, qui a créé beaucoup de choses. Il a créé le paradis, le Gan Eden, il a créé les anges, différentes catégories d'anges, il a créé les sphères. Vous savez que, par exemple, le soleil, la lune, les étoiles, Maïmonide explique que chacun de ces astres a une compréhension. Et ça veut dire que le soleil, il a une compréhension, il n'a pas de libre arbitre, il a une compréhension. C'est-à-dire chaque chose dans le monde a sa compréhension, il a une façon de compréhension, il a une mécanique. Et ce qu'il y a de plus bas qui puisse exister, c'est quoi? C'est la terre dans laquelle on vit et l'homme. Pourquoi? Parce que dans tout cela, la particularité de l'homme, c'est qu'il a le libre arbitre. C'est le seul.
C'est le plus haut, là.
C'est le seul, dans tout le système.
Alors c'est le plus haut, là.
Et voilà. C'est-à-dire tu prends le soleil, la lune, les étoiles, les anges, le paradis, tout ce que tu veux, personne n'a le libre arbitre en haut. Et nous-mêmes, après 120 ans, lorsqu'on monte en haut, on n'a plus de libre arbitre. C'est dur, en
fait. Aujourd'hui, on est comme
Hachem. Voilà, ça veut dire que d'un côté, voilà, c'est ce que tu dis. D'un côté, quand on est en bas, on est au niveau le plus bas possible, dans un niveau dans lequel on ne voit pas Dieu.
Mais en même temps,
on est à un niveau le plus haut possible. On a un niveau presque divin. On a un libre arbitre. On décide notre avenir. On décide ce qu'on fait. C'est extraordinaire. C'est ce que tu dis ici. Là, il t'explique tout ça pour te permettre à comprendre. Ah. Comment ça? Comment ça?
T'as fini? Quelqu'un va toucher chez toi?
Ah oui, faites la Nasrat Nashim parce qu'il y a un cours là-bas de jeunes filles. Donc, on voit ici comment, de ce qu'il explique, on voit comment notre monde a la particularité d'être d'un côté le monde le plus élevé possible qui puisse exister, et d'un autre côté le monde le plus bas qui puisse exister. C'est ce paradoxe. Donc quand nous on habite dans ce monde, on doit comprendre que faire la Torah et les mitzvot, c'est pas un choix populaire, et c'est un plaisir extraordinaire à Kadosh Baruch Hu quand on va créer une mitzvah. Alors, on va essayer d'illustrer ça avec un exemple. D'accord ?
Oh.
Ah, parce que la lumière est allumée, donc ils vont taper sa part. Non, mais il doit avoir une réunion parents d'élèves.
C'est des jumeaux, là.
Ouais,
oui, mais c'est pourquoi ?
Je peux pas, papa, on peut pas ouvrir à chaque fois. Allez, c'est.
Ah, c'est le dixième.
Pas de problème. Alors, je vous expliquais à quel point le monde dans lequel on vit est un monde vraiment particulier. D'accord ? Regardez. Vous voyez la table qui est devant moi ? C'est une table. Bon, cette table, elle est faite de quoi ? On va pas parler de bois. Ok, vous touchez le bois ? Vous le voyez le bois ? Vous le touchez ? Très bien, on le touche. Il y a du bois. C'est du bois, il est dur, il est solide. Si je vous dis maintenant qu'en vérité, cette table, c'est une lumière de Dieu. Vous allez me dire, Mendy, bon...
Il faut arrêter la vodka.
Voilà, il faut arrêter la vodka. Donc, quand on va venir voir quelqu'un dans ce monde, on va lui dire, tu sais, cette table est une lumière. C'est pas ce que je vois. Ce que je vois, c'est que cette table est une table matérielle. Le matériel est ce que je sens. Le spirituel est ce que je sais. Ça veut dire, il y a la différence entre ce que je sens et ce que je sais. Ici-bas, sur Terre, je sens le matériel, je connais le spirituel, je sens le matériel et je sais, on m'a dit que c'est du spirituel, mais je peux pas le sentir. Imaginez que, par rapport à Kadosh Baruch Hu dans les mondes célestes, c'est-à-dire quand je parle du Gan Eden, c'est exactement le contraire. Quand on est au Gan Eden au paradis, on leur dit, vous savez, en bas, il y a un monde et là-bas, c'est matériel. Ils disent, ah bon, c'est quoi matériel? Ils savent pas, matériel, ils savent qu'il existe, mais ils savent pas ce que c'est. Spirituel, là, spirituel, on connaît, spirituel, mais ça, on peut toucher.
Et comment il faut faire pour
aller. Alors, pour vous montrer à quel point le monde dans lequel on vit est un monde. On peut pas, c'est impossible.
Non, mais c'est pas Rabbi Shmuel Zalman.
Non, mais c'est pas possible. C'est
accroché à la table pour sentir.
Oui, mais bon, on n'est pas dans la même réalité. Pourquoi j'explique ça? Pour expliquer à quel point, imaginez, si vous regardez la table, quand vous voyez la table, tout ce que vous voyez autour de vous, vous voyez Dieu. Même jamais j'aurais fait une faute. Ouais. Tout ce que tu vois tout, tu fais une avéra, pack, tu vois un mur qui tombe. Tu fais une mitzvah, tu vois un mur qui se construit. Mais jamais j'aurais fait une avéra. Mais quand je fais l'avéra, je vois rien qui se passe. Je vois que du matériel, je vois pas de spirituel. Bon, dans ce cas-là, ça me dérange pas. C'est ce qu'un machpia expliquait, un rave expliquait dans un cours, pour expliquer la différence, à quel point dans notre monde, on vit dans un monde dans lequel, j'ai pas envie de dire le monde du mensonge, mais c'est ça en vérité. Ça veut dire que, on te cache la vérité. La vraie vérité, c'est que tout ce qui est autour de nous, c'est Dieu, c'est la lumière de Dieu. Mais on te le cache, on te le voit pas, tu le vois pas. Ce que je vois, c'est qu'il y a une table. D'accord ?
Même dans un autre sens, on le voit.
Dans tout.
Dans tout. Quand il y a la lumière du soleil, je vois pas qu'il y a Dieu dedans.
Très bien. Exactement, vous avez raison. Parce que nous, on réfléchit comme ça. Nous, on réfléchit d'une façon que, on réfléchit tout avec notre cerveau, et on n'arrive pas à voir la lumière qui est derrière.
Mais tu es en train de construire des excuses, là.
Pas du tout. Non. Au contraire.
Non,
j'explique tout ça pour expliquer à quel point notre monde est un monde dans lequel Dieu n'est pas visible. Une fois, il y a un maître de la yeshiva de Brunois, ben, la Vache à l'homme, le Rav Nemanov, il a posé une question. Il a posé une question intéressante, question rhétorique dans son cours. Il a posé la question à ses élèves, il leur a dit, est-ce que d'après vous, on peut trouver une preuve sur Terre que Dieu existe ?
Est-ce qu'on peut trouver une preuve que Dieu existe ?
Que Dieu existe. Alors, les élèves, ils ont essayé de se casser la tête, etc. Bon, il a donné une preuve, mais chaque fois, toutes les preuves que les élèves avançaient, le professeur prouvait que c'est pas des preuves. C'est pas une preuve mathématique. Quand je parle d'une preuve, je parle d'une preuve mathématique qui prouve que Dieu existe. Donc, à la fin, les élèves étaient bloqués parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas de preuve mathématique. Alors, ils ont dit au Rav, ils ont dit, alors quoi, il n'y a pas de preuve? Il leur a dit la chose suivante. Il leur a dit, il faut remercier Dieu qu'il n'a pas créé une preuve qui n'existe pas. Vous imaginez ça? S'il y avait une preuve que Dieu n'existe pas? On aurait été mal.
Ah ouais. Oui, c'est vrai, mais dans le même temps...
Là, déjà, Dieu, il a été gentil avec nous. Il n'y a ni une preuve qu'il existe, ni une preuve qu'il n'existe pas. Alors après, bien sûr qu'il y a la Emouna.
Excusez-moi, ça marche dans l'enfance aussi.
Il n'y a aucune preuve.
Que Dieu existe aussi.
Voilà, c'est ce que je viens de dire.
Non, vous avez dit le contraire.
Non, non, il n'y a pas de preuve qu'il existe. Il n'y a pas de preuve qu'il n'existe pas. Il n'y a aucune preuve. Ni l'un, ni l'autre.
Il n'y a pas de preuve qui n'existe pas.
Tu es d'accord, ça va, mais tu n'es pas d'accord, ça va aussi.
Exactement. Je ne peux pas trouver.
C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est une certitude.
On parle de l'intuit.
Tu l'as dit dans un sens, c'est de dire, j'ai la preuve qui n'existe pas. Et moi, un croyant, je ne peux pas te dire.
C'est pas une preuve mathématique, ça.
Exact.
Quelque chose qui ne bouge pas.
Qui vous dit que c'est Dieu? Peut-être qu'il y a autre chose. Peut-être c'est un homme qui écrit.
Qu'est-ce que. Il y a un homme qui fait quelque chose. L'homme, il est limité.
Mais ça, c'est une supposition.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être créé sans Dieu?
C'est une supposition, ça.
Est-ce qu'il y a quelque chose dans le monde?
J'ai compris. Mais pas. C'est pas parce que vous savez pas ce que c'est que vous avez dit c'est Dieu.
Mais si. Quoi, c'est Dieu. Même si je sais pas ce que c'est.
Qui a créé cette bouteille?
C'est un fournisseur de verre.
Vous ne savez pas?
Non mais attends.
Attendez. Vous savez pas?
Attends.
Qui a créé cette bouteille? Peut-être.
Oui. Regarde, elle est vide comme ça. Elle est venue du ciel, c'est sûr.
C'est un gênement. Mais on est pris constamment entre deux. Entre est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il n'existe pas.
C'est sûr qu'il existe.
C'est la coupure.
Il n'y a pas de preuve mathématique.
Je rappelle, la circoncision. Je viens, attends, c'est une coupure qui fait lien. Alors, est-ce qu'il existe ou pas? Donc, il y a une cassure. Et nous, on est là.
Vous savez, M. Benita.
On se pose des questions, 1,000,000%.
Ben voilà, c'est un bon match.
Tout grand. Alors, est-ce que c'est
M. Benita, Joseph.
C'est que c'est
trop. Non, man.
15-0.
C'est bon, on a l'animation, là. On a l'animation. Grâce à Dieu.
Arbe Joseph.
Ah
ouais, c'est que toi, là.
J'en rêve, 24 semaines.
Alors, pourquoi j'explique tout ça? C'est pas pour vous embêter.
Non, le contraire aussi. On a la preuve ni d'un côté, ni de l'autre.
Ni d'un côté, ni de l'autre. Je parle. Alors attention, quand je parle d'une preuve absolue.
Ben oui.
Pas d'une preuve supposée qui explique.
Absolue des deux côtés.
Preuve absolue, il n'y en a pas, ni l'un ni l'autre.
Voilà. Parce que même si on avait une preuve, qu'est-ce qu'on en ferait? Parce qu'on est capable d'en faire quelque chose. Même si,
si on avait une preuve, personne n'aurait pu être
athée. Non, mais on serait même incapable
d'impossible.
De faire quoi que ce soit.
Alors pourquoi j'explique tout ça? Pour montrer à quel point notre monde est un monde qui est tellement bas. Vous imaginez à quel point notre monde est bas? Il est tellement bas que le créateur de ce monde n'est même pas visible.
Je veux dire, c'est parce qu'on est très éloigné de la source, en fait.
On n'est pas éloigné de la source, c'est le problème. C'est qu'il se cache, il nous cache la source, mais elle est là, la source.
Quand tu parles de l'enchaînement,
oui.
Justement, on est loin de la source.
On est loin, si tu veux, en métaphysique. Oui, on est très loin, exactement. Donc, du coup, on ne le voit pas. Et donc, c'est avec ça, je veux expliquer le fait que le monde dans lequel on vit est le monde le plus loin possible, si on peut dire, de Dieu. Et donc, c'est l'endroit dans lequel on ressent le moins possible Dieu. Et dans lequel une personne peut naître et mourir sans croire en Dieu, parce qu'il n'a pas de preuve. Dans un monde comme ça, venir croire en Dieu, faire la Torah, faire les mitzvot, c'est extraordinaire. Il faut le dire, c'est extraordinaire.
Mais alors...
Et ça, chaque seconde que je fais une mitzvah, même si moi je m'y habitue, Dieu il dit, c'est magnifique.
Mais ça ne passe pas pour le Gan Eden, ce que tu me racontes.
Et bien, évidemment, évidemment.
Je ne passe pas.
Mais bien sûr. Je dis ça pour expliquer à quel point c'est extraordinaire. À quel point Kadosh Baruch Hu dit, mais t'imagines, c'est pas surnaturel.
Un jour on mange un Big Mac, un jour on mange pas un Big Mac.
Non.
Le jour on n'a pas mangé un Big Mac, on est au Gan Eden, c'est ça?
Mais tous les jours, Big Mac, c'est pas bon.
Mais ça, c'est valable dans d'autres temps.
C'est valable?
C'est valable que dans d'autres temps.
Tu as raison.
C'est valable tout le temps.
Plus on s'éloigne de.
Et plus on est.
Torah,
on est bas.
Eux, ils ont vu Dieu.
Bien sûr, plus on est bas.
Nos ancêtres l'ont vu. Et nous-mêmes aussi, nos âmes l'ont.
Oui, tout le monde était là-bas. Mais voilà ce que je viens de dire. C'est qu'on est dans un monde aujourd'hui dans lequel on ne ressent pas Kadosh Baruch Hu. Pourtant, il est là, mais on ne le ressent pas. Donc, dans un monde comme ça, le choix naturel n'est pas de faire une mitzvah. Et pourtant, on fait une mitzvah. Et donc, ça, c'est le plaisir qu'a Dieu.
Donc, c'est ça le mérite.
C'est ça le mérite. Non, mais c'est ça surtout, du côté de Dieu, c'est ça son plaisir.
C'est ça.
Qu'est-ce qu'il apprécie particulièrement? Il apprécie particulièrement quand on le sert, alors que c'est pas populaire, alors que personne ne verra. Enfin, il n'y a rien qui me fait ressentir qu'on est en train de regarder ce que je suis en train de faire. Et il y a une idée intéressante que dit Shlomo Ameler, qu'on va développer tout de suite, qui dit la chose suivante. Shlomo Ameler, le roi Salomon, il dit dans les proverbes, il dit Vera iti ani, et moi j'ai vu. Donc quand il dit moi, c'est le roi Salomon. Moi, le roi Salomon, celui qui est censé être le plus intelligent des hommes. Il dit moi j'ai vu que la lumière a une supériorité sur l'obscurité. tous les commentaires posent la question. Ils disent, mais il n'y a pas besoin d'être le roi Salomon pour comprendre que la lumière est mieux que l'obscurité. Demandez à un simple enfant, tu lui dis lumière, obscurité, qu'est-ce qu'il va te répondre? Bah, lumière. Ah, pourquoi qu'est-ce qu'il veut dire le roi Salomon en disant, moi j'ai compris, moi j'ai vu, moi le roi Salomon, que la lumière est mieux que l'obscurité? En fait, les commentaires disent la chose suivante, ce qu'on va développer tout de suite. Ce qu'on va développer, c'est que pour apprécier la lumière, il faut passer par l'obscurité. Et c'est en passant par l'obscurité que tu apprécies la lumière. Ça veut dire, le fait que dans le Gan Eden, les anges font la volonté de Dieu, c'est pas une nouveauté, parce qu'il y a déjà une grande lumière, et tu rajoutes une petite lumière. Bon, on l'a pas remarqué, ta lumière. Comme dit la Gemara, une bougie en plein jour, à quoi ça sert? Bon, t'as allumé une bougie, très bien. Mais quand un moment dans lequel il fait obscur, dans lequel on ne voit pas Dieu, et moi j'allume ma petite bougie, ben cette petite bougie peut tout changer. C'est pour ça que des fois les gens posent la question, ils disent, mais je fais une petite pizza, qu'est-ce que ça va changer? Je ne comprends pas. Tu leur dis, tu viens mettre les tefillines, tu vas mettre les tefillines quelques minutes par jour. Enfin, ah, ça va?
Oh là là, quelle merveille.
Il y a juste des
bonjours. Chef.
Comment ça va?
Ça va?
Du camp?
Non, pas forcément.
C'est pour rester ou pas?
Non,
t'exagères. On avait un deal.
Hein?
On avait un deal.
C'est ça.
Hein?
Oui, c'est quoi ça?
De quoi,
c'est une bonne surprise.
Hein?
Voilà. Hey, une petite fille, un revenant.
Oh, Hachem, on a plein de surprises aujourd'hui.
Hein? Non, un revenant, j'ai dit.
Viens embrasser l'autre fantôme.
Il y a deux fantômes.
Sans lui avoir. Pas reconnaître.
Hein?
Non,
arrête, un coach, je ne reconnais pas.
Il n'a pas bougé.
Bon, on souhaite cette pause pour faire une pause des Chaïm, là. Allez.
Sans lui avoir.
Monsieur Guinness.
Qui est gentil.
Les Chaïm, il vient d'avoir une petite fille aujourd'hui. Les Chaïm.
Je vous laisse parce que ma femme est dehors.
Mais non, reste.
Messieurs.
Non.
Les Chaïm. C'est sérieux ou c'est pas vrai? J'ai pas vu.
Il a pas servi, il a dit. Si
les chiffres le prix, c'est les meilleurs.
Tiens, j'ai moins un verre.
Il y a encore. Le bâton,
il va sortir le paquet.
Raïm, attends, donne-moi un verre, s'il te plaît. Tiens, merci. Raïm.
Lidl.
Lidl, Raïm, où?
Avenue Fontaine d'Eau.
Mais à quelle hauteur, tu sais?
Ok. Alors, à votre avis, on va continuer un petit peu. Donc, je reprends. Ça veut dire, on est dans un monde aujourd'hui, dans lequel c'est l'obscurité. Les gens, des fois, ils se posent la question, ils disent, mais qu'est-ce que ma mitzvah va changer? Je fais une toute petite mitzvah. Qu'est-ce que ma mitzvah va changer? On se rend pas compte à quel point ma mitzvah peut tout changer. Pourquoi? Chaque fois que je fais une mitzvah, c'est comme si j'allume une bougie. Alors si on allume une bougie dans un endroit où il fait déjà jour, bon, c'est bien. Mais imaginez quelqu'un qui n'est pas religieux, qui ne fait pas du tout la Torah et les mitzvot, et il fait une toute petite mitzvah. Bah, cette petite mitzvah qu'il fait, c'est une petite bougie qui éclaire toute sa maison. C'est ce qu'on te dit ici. Et ça, quand Akadosh Baruch Hu voit ça, il dit, mais cette petite bougie, elle vaut plus que tout le Gan Eden. Parce que le Gan Eden, il fait déjà jour, donc elle ne nous intéresse pas, la bougie. Mais là, tu as un endroit dans lequel il fait noir, tu vas allumer une bougie, et on connaît, vous savez, c'est quoi le principe de la bougie? C'est qu'un petit peu de lumière, comme on va développer, repousse beaucoup d'obscurité. Ça veut dire comme ça. Imaginez, on est dans une pièce obscure. Je ne sais pas combien de mètres carrés ici, d'accord, des dizaines de mètres carrés. Une pièce obscure. Donc elle est grande. Je vais allumer une petite bougie qui fait 5 mm sur 10 mm. Comment cette petite bougie à elle seule peut éclairer toute la pièce?
Ce ne sont pas des mètres carrés, c'est des mètres cubes.
C'est mètres cubes, c'est énorme.
C'est énorme, bien sûr.
Ça veut dire qu'il y a un combat entre, oui, la lumière et l'obscurité. Ouais. Comment c'est possible? Normalement, on devait être à armes égales. Ça veut dire, pour se battre avec une obscurité qui est aussi grande, il aurait fallu une lumière aussi grande.
Oui.
Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que Dieu a fait dans le monde? Dieu a fait dans le monde qu'une toute petite lumière
peut repousser
des kilomètres d'obscurité.
Eh bien, d'ailleurs...
Des kilomètres. Bien sûr, on le voit. Quand on est dans un endroit où il fait noir, tu allumes une bougie, de loin tu peux la voir. Celui qui a des bons yeux, il la voit de loin. Ça veut dire que cette petite lumière a repoussé des kilomètres d'obscurité.
Il a raison,
étoiles. Les étoiles.
Pire que ça, des fois,
la mais les étoiles, c'est grand déjà.
Des fois, la lumière que tu vois,
elles sont très loin. Très très loin.
Et tu as
ça, c'est un exemple. Pas d'avoir vraiment
des
mots.
Des fois, l'astre, il est mort depuis longtemps. C'est juste son reflet qui arrive à nous.
Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple pour nous montrer. On va prendre la page 130. Je l'explique à l'oral. C'est un exemple pour nous montrer à quel point, dans ce monde, Akadosh Baruch Hu a un plaisir particulier de la supériorité de la lumière sur l'obscurité. À quel moment j'apprécie la lumière quand je me trouve dans l'obscurité? Ça, ça nous permet de comprendre beaucoup mieux pourquoi Akadosh Baruch Hu a un plaisir particulier quand il voit faire une mitzvah. Alors, on est à la page 130. Tout le monde entend bien? On est à la page 130. Voilà. Shekar Ala, en haut de la page. Shekar Ala Birtsono Itbarach. Ainsi, Dieu a eu comme volonté. C'est une volonté. C'est une volonté qui ne s'explique pas. Liot Nachadroar Lefanav Itbarach. Il a eu envie d'avoir plaisir. Kad Itkafia Sitra Achara. Lorsque la Sitra Achara, ça veut dire les forces du mal, va être pliée. Veit Aper Hashocha Lineora. Et qu'on va transformer l'obscurité en lumière. On a l'impression, quand on entend ça, d'entendre des mots de je sais pas quoi, de quel film. D'accord? C'est ce qui se passe chaque fois que je fais une mitzvah. Chaque fois que je fais une mitzvah, je transforme encore un peu plus l'obscurité de ce monde en lumière. Chez Yahir, Or, Hashem, et Savaruhu, ce qui permet d'éclairer la lumière infinie de Dieu. Bimkom, Achosher, Vastrahara, Shelkol, Aolam, Azekulo. Cette lumière va éclairer dans un lieu dans lequel il y a une grande obscurité, l'obscurité de ce monde-ci. Veillez terre 7, veillez terre as, avec une très grande puissance. Veillez tron or mina rocher meharato balamotelini. Voilà ce que je voulais, où je voulais arriver. Ça veut dire que la petite lumière que je vais allumer ici, même si c'est une petite lumière en quantité, mais en qualité, cette petite lumière vaut plus que toute la lumière du monde futur. Ça explique une Mishnah dans Pirkei Avot. Dans Pirkei Avot, c'est écrit comme ça. Il est écrit que un instant de Teshuvah dans ce monde-ci vaut plus que toute la vie du monde futur. Quand on lit ça, on se dit, mais attends, il y a un problème. Parce que si tu me dis que je travaille pour avoir le monde futur en haut, donc dans ce cas, j'ai qu'à rester en bas, parce qu'un instant ici, ça vaut plus que tout en haut. C'est là qu'on comprend. Quand tu arrives en haut, il fait jour. Donc il fait jour, c'est terminé. Il n'y a plus rien à rajouter. Tu profites de ce que tu as fait. Si tu as fait, tant mieux. Tu n'as pas fait, tant pis. Mais quand tu es en bas, chaque petite mitzvah que tu fais, tu es en train d'allumer une lumière dans un endroit qui est obscur. Même si tu ne te rends pas compte, mais c'est ce qui se passe. Chaque fois que je fais une mitzvah, c'est un plaisir extraordinaire pour un Akadosh Baruch Hu. Parce que j'ai allumé la lumière dans un endroit dans lequel il faisait obscur.
C'est quoi les règles que Mashiach change?
C'est quoi les règles?
Les règles que Mashiach va changer.
Il faut allumer un maximum de lumière.
Non, mais quand Mashiach va arriver.
Ah, quand Mashiach va venir, eh ben, il va enlever le voile. Dieu va enlever le voile. Donc, comme il va enlever le voile. Non, pas du tout. Comme il va enlever le voile, donc automatiquement, il n'y aura plus de Yetzarara qui m'empêchera de faire les mitzvot, puisqu'on verra directement. Différent, ouais. Il n'y aura plus de Ravid comme aujourd'hui, non. Le Ravid, si tu veux, sera est-ce que je fais 7 mitzvot ou 7 mitzvot? Pas est-ce que je fais une mitzvot ou une avéra? Je pourrais faire une avéra si je veux, mais la réalité sera tellement claire devant moi, je verrai tellement, ça veut dire de mes yeux, que quand je fais une avéra, la destruction que je génère, et quand je fais une mitzvah, le bien que je génère, que personne ne voudra faire une avéra.
Par rapport à son envie l'envie du début de créer ce monde.
Oui.
Quel intérêt de vouloir faire venir Mashiach, parce qu'en réalité, ça va enlever cette envie.
Son intérêt parce que son intérêt avec ça, c'est qu'il va, c'est que pendant 5 000 ans, 5 076 ans, il nous a fait travailler, et après il va nous récompenser. Il va récompenser ceux qui ont travaillé dans un monde obscur. On est dans un monde obscur aujourd'hui.
C'est la fameuse.
On est dans le monde du mensonge. C'est la réalité. Hein. On est dans le monde du mensonge. Vous savez, c'est quoi le monde du mensonge? Le monde du mensonge, c'est quand la vérité, c'est quand le mensonge paraît vrai et la vérité paraît fausse. C'est le monde dans lequel on vit. Et ça, on le retrouve à tous les plans. On le retrouve à tous les plans. Vous pouvez le prendre, par exemple, par rapport à l'actualité, par rapport à... Mais c'est la vérité.
C'est la
vérité. Vous pouvez analyser, par exemple. Quand tu analyses l'actualité, tu vois, par exemple, comment on va te présenter ce qui se passe en Israël.
Oui.
Et tu vois comment on te présente mal. À un moment, tu dis, mais attends, je comprends pas. Peut-être qu'on est fou, quoi. Peut-être qu'on est fou. Non, il faut nous le dire. Je sais pas, peut-être qu'on est fou. Peut-être que là, tu dis, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a un problème. Ça te rend fou. C'est la vérité. Il suffit, bon, on va faire un cours de politique ce soir, mais analyse la politique aux États-Unis, partout où tu veux dans le monde. Mais c'est pas possible. C'est quoi ce monde de mensonges? C'est un monde du mensonge.
C'est manipulé.
C'est complètement manipulé. Mais complètement.
Mais est-ce qu'après Machiav, là, il n'y aura plus de mérite de pratiquer?
Ah non, non.
Après Machiav, il n'y a plus France Info. C'est
après mérite, après Machiav, ce sera d'autres mérites. Ce sera le mérite, bon, de faire. Mais il n'y a pas le mérite de faire dans un endroit où on n'était pas tenté de faire, en soi.
Ce qu'il dit, c'est... Quand tu auras Machiav, là, tu dis, on voit la matérialité de la table, on verra la spiritualité de la table.
Oui, bien sûr. Lorsque Machiav viendra, je verrai la table, mais en voyant la table, je verrai la parole de Dieu... de la création du monde qui génère cette table.
Tout le monde, il y aura juste tout le monde.
Le monde, tout le monde. Tout le monde verra ça. Après, on devra s'habituer à ça. Mais c'est ce qu'on verra. Ça veut dire, imaginez qu'aujourd'hui, par exemple, on va être capable d'analyser la structure biologique, chimique, etc. d'un produit. Imaginez que quand on va venir avec nos propres yeux, on sera capable de voir l'énergie divine qu'il y a dans un objet. Alors, tout à l'heure, vous avez posé la question. Il y a des tzadikim qui sont arrivés à un niveau qui ressemble à ça. Qui ressemble à ça, mais c'est jamais ça. Ce niveau, d'ailleurs, c'est ce qui est écrit. Ce qui est écrit dans Isaïe. Ve'ayu enecha ro'ot et morecha. Tes yeux verront ton maître. Voilà, tout est là. Et on le dit aussi dans le. C'est un verset, c'est aussi qu'on le dit dans la fin du Alenu, mais c'est un verset. Bayom ha'u yé Hashem echad ushmo echad. Dieu un et son nom est un. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a Dieu et il y a son nom. Son nom, c'est le monde. C'est deux choses différentes. Il y a Dieu et il y a comment il se représente en bas. Mais quand Hashem va venir, il n'y aura plus toutes ces séparations. Donc vous comprenez qu'on est dans un monde aujourd'hui dans lequel on peut agir et c'est une occasion unique qu'on a. Lorsque Machiav viendra, ce sera déjà trop tard. Ma petite lumière ne servira plus à rien puisque de toutes les façons je serai dans un monde qui sera déjà illuminé. Voilà, on commence maintenant à comprendre un petit peu mieux, à comprendre le plaisir qu'a Kadosh Baruch
Hu. À partir du moment où il est là, c'est qu'il y a eu suffisamment de lumière. Autrement, il ne serait pas venu.
Voilà. Bon, maintenant qu'on a compris ça. Bon. Donc dans les mots, Shemeir, Sham, Aliédé, j'accélère parce que j'ai déjà expliqué à l'oral ça, hein, à la fin de la page 130, Shemeir, Sham, Aliédé, Levushim, Vester, Padim, Amastir, Omalim, Oran, Savar, Rouch, et lui, Vatlou, Imtiout. D'accord. Bon, maintenant qu'on a compris ça, on a compris qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il apprécie particulièrement ce qu'on fait, puisque c'est un effort extraordinaire ce qu'on fait, même si on ne se rend pas compte, mais c'est extraordinaire. On allume une lumière dans un endroit qui est obscur. Et que lorsque Machiav viendra, bah, Dieu allumera tout simplement la lumière, donc du coup, il n'y aura plus d'obstacles. Alors avec ça, on comprend beaucoup de choses. D'abord, on comprend, je vais faire un rapport avec la paracha de cette semaine. Paracha de cette semaine, c'est la paracha qui t'était. Qu'est-ce qui est écrit dans la paracha qui t'était? Dans la paracha qui t'était, la paracha commence en disant, qui t'était la milchama, j'en ai parlé dimanche matin, qui t'était la milchama al oivera, untano adonai locha beyadera. On l'a expliqué, dimanche matin, on l'a étudié. Alors, je traduis le verset, et vous allez voir tout de suite que dans ma traduction, il y aura une erreur de forme. Donc, je vous préviens. Lorsque tu sortiras en guerre sur tes ennemis. Tu sortiras en guerre sur tes ennemis. Voilà. Bah, déjà un problème. Donc, lorsque tu sortiras en guerre sur tes ennemis, Dieu te le livrera dans tes mains. Et tu captureras son captif. Donc, il y a deux problèmes dans ce verset. Premier problème, c'est qu'on part pas en guerre sur un ennemi. On part en guerre contre un ennemi. On est d'accord? Et on sort en guerre. Bon, je veux bien qu'on sorte en guerre, d'accord? Déjà, on part en guerre, mais bon, on va dire sortir. T'étais, c'est sortir. D'accord, tu vas dire sortir, mais je sors en guerre contre un ennemi, pas sur un ennemi. Et en plus, tu commences par un pluriel. Lorsque tu sortiras en guerre sur tes ennemis, Dieu te le livrera dans ta main. Ah, mais attends, ils étaient deux. Donc, quand tu dis un pluriel, c'est que c'était un minimum deux. Donc, si tu dis une élite, il faut me livrer les deux, pas un. Alors, comment ça marche? Ça veut dire que j'ai perdu? Si, c'est pas du tout. C'est expliqué dans le Tanya et dans le côté de Torah aussi. C'est très simple. Il y a en vérité un juif dans sa vie, il peut avoir plusieurs ennemis. Je parle spirituellement. Il peut avoir le Yitzhara de ci, le Yitzhara de ça, et l'ange de la mort, et le Satan, et ci, et ça, etc. Plein d'obstacles. Quand tu les vois, tu dis, mais j'ai plein d'ennemis. Non, en vérité, tout cela, c'est un seul ennemi. C'est le même ennemi. Et il prend différentes formes. Alors voilà ce que te dit la Torah. La Torah te dit, quitte t'sais la milchama, lorsque tu pars en guerre, al oivera. Sois sur ton ennemi. Ça veut dire quoi sur ton ennemi? Ça veut dire, ne va pas égal à égal. Ne dis pas, bon, il y a mon ennemi, il y a Yitzhara, je suis égal à égal, donc je vais contre lui. On peut aller en guerre contre un ennemi, On peut aller en guerre sous un ennemi, c'est-à-dire que dès le départ, tu pars perdant. Et on peut aller en guerre al-Oivera sur un ennemi. Ça veut dire quoi, partir en guerre sur un ennemi? Ça veut dire que tu pars en guerre, il y a une guerre.
Gagnant.
Mais dans
gagnant,
ta tête,
Serge,
t'es déjà gagnant.
T'es un gagnant.
D'accord? Non mais là, c'est pour demain. D'accord? Là, c'est pas pour se moquer de quelqu'un. Non. Donc, tu pars en guerre. Alors voilà ce que te dit la Torah. Qui t'étse la milchama al-Oivera? Lorsque tu pars en guerre, dit la parasha de cette semaine, et que tu pars en guerre gagnant sur ton ennemi, ça veut dire que dans ta tête, tu te dis, mais vous voyez, le Satan, le Yetzara, mais c'est de l'obscurité. Moi, je fais une petite mitzvah, je les éclate. C'est de l'obscurité, c'est des montagnes d'obscurité. Lorsque dans ta tête, tu comprends ça, dans ce cas-là, Dieu te le livre entre tes mains, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu te rends compte que ce que tu croyais des ennemis énormes, en vérité, c'est des montagnes d'obscurité, que tu as lu une petite lumière, tout est parti, tout s'est effondré. Ça, c'est écrit comme ça. C'est écrit que lorsque Kadosh Barouh nous envoie des thèses et des épreuves, des fois, on a l'impression qu'une épreuve est insurmontable. Et à peine on commence à combattre l'épreuve, alors au début, bien sûr, l'épreuve, elle est là, une montagne, mais à un moment, tu vois, elle disparaît. Tu mets, je crois que c'est une montagne, elle est où la montagne? Il n'y a plus la montagne. C'était du bluff, tout ça. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Vous savez, par exemple, le Midrash ramène un exemple. Il dit que lorsque Abraham, Dieu lui a demandé de sacrifier son fils. Bon. Alors, la route pour aller sacrifier son fils, c'était une route d'à peu près une demi-journée. Et pourtant, la route l'a pris 3 jours. Et il a marché pratiquement sans arrêt. Alors, la vraie, pas la pause. Bon, alors.
Tous d'or, les travaux.
C'est tout.
T'as vu comment c'est le même ici, il y en avait partout, dans la rue, plein.
Bah, qu'est-ce que tu veux dire?
Alors,
j'ai pas vu les baignoires.
C'est ça, mais.
T'as de partout les arabes, j'ai vu aujourd'hui.
Alors, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Abraham, il prend 3 jours. 3 jours pour arriver à destination. Le Midrash pose la question, il dit, mais comment ça se fait qu'il a pris, 3 jours dans sa route? C'est pas possible.
Il a sacrifié son fils, tu vas pas en courant, quoi.
Ah oui, bah, justement, que la Torah nous raconte qu'il est parti avec empressement. Alors, s'il est parti avec empressement, pourquoi il a pris 3 jours? C'est ce que raconte le Midrash.
Il a pas Waze.
Le Midrash, il raconte la chose suivante. Il dit, c'est pas trompé de route. Dieu lui a mis des obstacles dans la route. Maintenant, des obstacles imaginaires. Ça veut dire que sur la route pour aller de Beersheba jusqu'à Jérusalem, sur la route qu'il a pris, Dieu lui a mis des montagnes virtuelles, des sables mouvants, de la pluie, de la neige, de la grêle, tout ce que tu veux. Mais pour le décourager, pour qu'il dise, attends, il y a un problème, c'est pas possible, même Dieu il veut pas, regarde, même Dieu il veut pas. Mais tout ça, c'est du vent. Et ce qui se passait, c'est que par exemple, il avançait en sable mouvant, il avançait 1 mètre, 2 mètres, dès qu'il avançait 1 mètre, 2 mètres, le sable mouvant il disparaissait, il y avait une autre épreuve qui arrivait. Après, hop, la grêle, elle arrive. Hop, et comme ça, d'épreuve en épreuve, il allait. Mais c'est imaginaire. Ça veut dire, il marche dans le sable mouvant, il fait 2-3 mètres, hop, le sable mouvant, il disparaît. Parce qu'en vérité, il n'y a jamais eu de sable mouvant. Il n'y en a jamais eu. Ça, c'est la force du Satan.
Au bout de la troisième fois, il était peut-être plus dur.
Oui, mais ça a l'air tellement vrai,
Oui,
Et bien, sachez que c'est exactement la même chose qui se passe lorsqu'on a une épreuve.
Lorsqu'on a une épreuve.
Lorsqu'on a du mal à faire une mitzvah, on a une épreuve, on a l'impression que c'est un monde, c'est insurmontable, c'est incontournable. En vérité, c'est du bluff. Tu prends une petite aiguille, tu perds, ça explose. Y a rien. C'est du bluff. Mais c'est tellement gros que tu dis, c'est pas possible, je vais jamais réussir. C'est pour ça qu'il te dit ici. Il t'explique ici. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, il te dit, lorsque tu pars en guerre sur ton ennemi. Dis-toi que t'es plus fort que lui, dis-toi que toi t'as une arme que lui n'a pas, que c'est extraordinaire, qu'avec ta petite arme tu reposes beaucoup d'obscurité. Seulement, le problème, c'est qu'on a du mal à le ressentir. Vous voyez notre problème? Notre problème, c'est que l'obscurité, on la voit et on la sent. Mais la lumière, on la voit pas. Mais on sait qu'elle existe. C'est compliqué. Lorsqu'on arrive au Gan Eden, là, on va lui dire, voilà, tu vois, là, quand t'as fait une mitzvah, t'as allumé la lumière. Ah, magnifique. Tu dis, regarde le satellite. C'est en train de, tu vois, lui, il vient de faire une mitzvah, là. Il est en train d'éclairer autour. Mais quand on est en bas, on sent pas ça, nous. On voit pas comment, quand je fais une mitzvah, j'ai allumé la lumière. Par contre, l'obscurité, tu la sens. Tu dis, bon, écoute, je le vois pas.
Je sais pas comment on dit citation ou ce verset. C'est où, là, vous l'exprimez au sens spirituel.
Oui, bien sûr. Je
pense. Ça fonctionne aussi sur le plan. Alors, une véritable armée qui. Enfin, l'armée d'Israël, les épopées qu'elle a traversées, quand elle part en guerre, contre ses ennemis, malheureusement, il y a eu aussi des défaites cinglantes.
On est encore en exil. Hein.
Mais même quand on était en Israël, il y a eu des
oui,
combats où il y a eu lutte acharnée où Israël a...
Et ma chère n'est pas là. Chaque fois, on essaye d'allumer des lumières. Chaque fois qu'on part en guerre, on essaye de faire gagner les forces du bien sur les forces du mal. Vous savez, lorsque Netanyahou, il est parti, il était ambassadeur d'Israël. il était ambassadeur d'Israël à l'ONU.
À l'ONU.
Dans les années 80. Et lui-même, il le raconte plusieurs fois. Hein. Il raconte plusieurs fois. Il était parti voir le rabbi. Le rabbi lui a dit comme ça. Il lui a dit, tu vas aller dans une maison pleine de mensonges. Mm-hmm. Baït, je reprends les mots. Baït Malesh Karim. House full of lies. Une maison pleine de mensonges. D'accord ? Et ton travail, mais écoutez ces mots, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et Netanyahu, enfin, avec la chutzpah israélienne, il a répété ça quand il était à l'ONU en 2008. D'accord ? Il a dit comme ça. Le rabbi lui a dit la chose suivante. Il a dit, ton travail, c'est d'allumer une petite lumière qui va repousser 119 éléments qui amènent l'obscurité. Voilà, c'est clair. Hein, c'est clair comme ça, tu peux pas. Ça veut dire en d'autres termes, tout le monde autour de toi sera contre toi. Vous savez, surtout dans les années 80. Les années 80, il n'y avait pas une semaine qui passait sans qu'il y avait une résolution contre Israël. Là encore, c'est un petit peu calmé, un petit peu. Si on appelle ça calmé. Hein hein oui, ils sont occupés ailleurs, voilà. Mais vous vous rappelez les années 80, moi j'étais petit, mais quand je lis, il n'y avait pratiquement pas une semaine qui se passait sans qu'il y avait une résolution contre Israël. Je crois que, d'après ce qu'on m'avait dit, plus de 80% des résolutions étaient contre Israël. On dirait qu'Israël, c'était le Satan en personne. Alors imaginez maintenant Netanyahou, ambassadeur d'Israël à l'ONU. Mais c'est pas possible, je vais jamais gagner. Ils sont majoritaires, c'est tout le monde est contre nous. Le rabbi l'a dit, toi ton travail n'est pas de voir est-ce que tu as réussi à allumer ou pas allumer. Tu allumes la lumière. Et tu laisses ta lumière faire son travail. Laisse ta lumière faire son travail. T'attends pas à dire oui, mais j'attends de voir est-ce que je vais convaincre lui, je vais convaincre l'autre. Toi, sois celui que tu es, tu dois avoir ton message de vérité, ton message de paix, et tu le donnes. Tu le donnes, ne te préoccupe pas qui le prend, qui ne le prend pas. Toi, tu allumes ta lumière. Et naturellement, la lumière, même si ils te font croire qu'il y a l'obscurité, mais naturellement, la lumière, elle rentre, elle rentre, elle rentre. Et comme vous avez dit, maintenant, aujourd'hui, ils sont occupés avec quoi? Ben, ils se sont rendus compte que ce qui nous attaquait, en vérité, le problème est arrivé dans le monde entier.
Ouais, c'est extraordinaire, c'est que l'Arabie Saoudite et l'Iran, ils sont en train de se...
Voilà, ce qu'il dit ici.
Le rabbi lui a dit que ce serait le dernier premier ministre.
Ça, j'ai pas entendu. Ça, j'ai pas entendu. Mais par contre, ce que je vous dis, il l'a raconté, j'ai les témoins qui étaient là-bas, que j'ai entendu en personne qui ont raconté, qui étaient là, et on a dit.
La prochaine, ce sera une femme.
Non, mais il a dit clairement, hein, il a dit voilà, ton travail, c'est d'allumer une lumière qui repousse l'obscurité, d'accord ? Qui repousse donc 119 sources d'obscurité. Enfin, c'est des mots extraordinaires. Voilà, c'est ça. Et ben, c'est ça le travail d'un juif sur terre. Chaque fois que j'ai fait une mitzvah, que je me comporte comme il faut, je repousse un peu plus l'obscurité du monde. Chaque fois que j'ai fait une bonne action. Bon. Maintenant qu'on a compris ça, hein, qu'on a compris que, à quel point, plusieurs choses on a compris. D'abord, on a compris que, quand on fait une mitzvah, on fait un plaisir extraordinaire sur terre que personne, aucune autre entité peut faire. Ni le Gan Eden, ni les anges, ni Moïse dans le ciel, ni Rabbi Akiva. Vous imaginez ce que je viens de vous dire? Personne peut autant faire plaisir à Kadosh Baruch Hu que moi maintenant en train de faire une mitzvah. Moshe Rabbeinu qui est dans le ciel, Rabbi Akiva, imaginez celui qui vous voulez, tous les grands tzadikim, ils sont déjà, c'est pas qu'ils sont hors concours, mais ils peuvent plus rien faire en haut. Ils peuvent plus rien faire. Ils peuvent intercéder, ils peuvent prier, etc. Mais le plaisir qu'il y a quand je fais une mitzvah, personne ne peut le faire en haut. C'est un plaisir unique, qu'il n'y a que moi qui peux le faire un cadeau. C'est un plaisir unique, qu'il n'y a que moi qui peut faire un cadeau. D'accord. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de développer, c'est, on a compris que, Akadosh Baruch Hu vous a donné une force énorme en bas, une force qu'elle a donnée à personne d'autre, une force de repousser l'obscurité. Et c'est très très dur. Alors quelle force? Il faut qu'il nous donne un outil pour nous permettre de réussir notre mission. Quel est cet outil? Et c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Maintenant qu'on a compris le challenge, c'est ça le challenge. Le challenge, c'est que j'ai un monde dans lequel Dieu se cache entièrement, il est invisible, et dans ce monde qui est plein d'obscurité, je dois allumer ma lumière en me disant et en me convaincant, bien que je ne le vois pas, que ma petite lumière va repousser beaucoup d'obscurité, bien que je ne le vois pas. C'est dur. Il faut un outil, il me faut une arme extraordinaire pour me permettre de tenir. C'est quoi cette arme? Eh bien, ce qu'il va développer ici. Cette arme extraordinaire. Donc, je suis à la page 131. Vélazé, c'est pour cela. Natan akadosh baruch hu l'Israël et ha-Torah. C'est pour cela que Dieu a donné à Israël la Torah. Shenikret oz vekoach. La Torah est appelée puissance et force. C'est curieux, parce que la Torah, a priori, c'est une étude, c'est une science, c'est intéressant, mais c'est pas une puissance, c'est pas une force. Et pourtant, le Talmud, lorsque le Talmud définit la Torah, il dit la Torah est une puissance et une force. Pourquoi le Talmud définit la Torah comme une puissance et une force? C'est pas la bonne définition. Très simple. Parce que c'est l'étude de la Torah et l'accomplissement de la Torah qui me donne la possibilité de tenir en ce monde. Sans la Torah, je ne peux pas tenir, c'est impossible. Sans la Torah, je suis écrasé. Il va aller même plus loin que ça. Il dit, lorsque Akadosh Baruch Hu va nous amener Mashiach, donc qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il amène Mashiach? Il enlève le voile. Lorsqu'il enlève le voile, on devrait brûler normalement. Alors il y a une image intéressante du Talmud, mais qu'on va développer évidemment. Le Talmud il dit comme ça. Il dit, lorsque Mashiach viendra, Dieu va faire sortir le soleil de son étui. C'est une image, hein, bien sûr, mais d'abord je vous donne l'image. Dieu fera sortir le soleil de son étui. Les Réchaïm, les mécréants, seront brûlés par ce soleil, qui sera plus protégé par l'étui. Et les Tzadikim seront guéris par ce même soleil.
C'est un filtre UV, quoi.
Comment ça marche?
C'est un filtre.
J'espère qu'on ne sera pas dans les Réchaïm.
Comment ça marche? Quoi, cette histoire?
Des rébats, c'est bon.
Alors, c'est très simple. Voilà ce qu'il explique ici. Lorsque... On va lire dans les mots. Lorsque je fais une mitzvah et lorsque j'étudie la Torah, j'obtiens deux choses. D'abord, ça me donne la force de casser mon yetzer hara sur terre. Une force extraordinaire, une puissance. Une puissance et une force, premièrement. Deuxièmement, chaque mitzvah que je fais et chaque étude de Torah que je fais, c'est comme si que je mets une crème sur moi, voilà, partout comme ça, et je m'immunise. Et le jour où Dieu il va enlever le voile sur le soleil,
le soleil qui va pas matin,
voilà, là, non seulement que ce même soleil ne va plus me brûler, mais au contraire, il va me faire bronzer.
Et c'est quoi la liste de protection?
C'est les mots de la Gemara, ça. Les mots de la Gemara. Mais vous comprenez que là, on est dans les effets spéciaux, là.
Ah oui.
Ah, là, entièrement, là.
Ah oui.
Mais c'est ça.
Ouais, avec ça, la bouteille n'est pas vide. Tu te rends compte?
J'ai pas encore vu mon verre. Hein. Je sais pas, il est où. Bon.
Un jour, on va faire un petit cours sur l'histoire de Mashiach. Parce que j'entends que on parle résolution de mort, des gens qui seront...
Tu es au bon endroit. Vous êtes à la bonne adresse. Ouais. C'est, là, on est chapitre 36. La fin du chapitre 36 et le début du chapitre 37, ça va être sur ça.
Ah, bah, super. Voilà. Okay. Ça part dans tous les sens. Et c'est un
peu... Ah oui. Alors, reprenons dans les mots. Vélazé, c'est pour cela, je reprends dans la page, au début de la page 131, Vélazé, c'est pour cela, Nathan, Akadosh Baruch Hu Israël et la Torah. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné à Israël la Torah. Shenikret, Oz, Vekoar, qui est appelée puissance et force. Pourquoi puissance et force? La Torah, c'est une étude, c'est une science, c'est pas une puissance, c'est une force. Je s'explique. Oukma, Marabotenozi, Juan Aluvracha, comme le disent nos sages, Shakadosh Baruch Hu noten koar betzadiki, une kabel sraramati, la voix. Dieu donne une force aux justes de recevoir leur mérite pour le monde futur. Quand je dis les justes ici, je n'imaginais pas les tzadikim. On est tous des tzadikim par rapport à ça. Chaque fois que je fais une mitzvah, je mets une crème. Je mets une crème comme ça, je mets une crème et je me protège. Chez Loïd Batlou, Mimtsiut Mamash, Beuraniglé, la Tiede Belchulou. Parce que lorsque ma chair va venir, Dieu il enlève tous les voiles. Et là, si je ne suis pas immunisé, si je ne suis pas protégé, je brûle. C'est intéressant comme image, parce que regardez le soleil. Le soleil, on aime bien le soleil, mais quand il y a trop de soleil, qu'est-ce qui se passe? Quand, et qu'on n'est pas protégé, on brûle. C'est-à-dire, ce qui est censé être un bien-être, oui, ne brûle.
C'est l'excès.
Vous voyez le problème? C'est-à-dire qu'on est dans un monde dans lequel quand tu protèges pas comme il faut, eh ben, l'excès du bien peut devenir du mal. Comme l'eau. L'eau, c'est le symbole de la bénédiction.
Mais, c'est en même temps,
mais quand tu as de l'eau en excès, eh ben, ça t'inonde. Le feu, c'est la bénédiction, le feu. Grâce au feu, c'est l'énergie. Mais quand tu as le feu, trop de feu, ça brûle. Ça peut tout exploser.
Ça marche avec l'alcool aussi.
Bien sûr. Un peu d'alcool, c'est bien. Ça réveille. Beaucoup d'alcool, ça endort.
Avec l'argent, c'est pareil.
Oui,
c'est vrai.
Oui. On n'a pas de goût avec l'argent. Quoi? Un peu d'alcool, ça réveille. Beaucoup d'alcool, ça endort.
Il a demandé avec l'argent.
Ah, c'est vrai, ça. Bah oui. Voilà. Alors, je vais t'expliquer avec l'argent. L'argent, c'est comme l'eau.
Exactement.
Quand t'as un peu d'eau, quand t'as un peu d'eau, c'est bien. Quand t'as beaucoup d'eau, tu risques de noyer. Il faut avoir une bonne barque. Voilà.
Et combien de mourir d'une manière ou d'une autre?
Pourquoi mourir? Non, pour mourir.
À ce niveau, c'est plus une barque.
David, naviguer dans une pataugeoire, c'est facile, parce que tu es à pied. Mais naviguer dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de parnassa, c'est plus compliqué, parce que t'es pas à pied. Donc quand tu tombes, tu te casses la figure.
T'inquiète pas, les impôts.
Ah oui.
Non,
c'est pour
répondre à la question. Trop d'argent, ça peut être pire des choses. Bien sûr. Donc la Torah te permet de. C'est ce qu'il disait. Faut toujours avoir la Torah.
Les riches sont méchants et les pauvres sont gentils. J'en connais pas qui ont envie d'être méchants.
Alors,
on dit que les riches sont méchants et que les pauvres sont gentils.
Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu?
Ils veulent devenir très
méchants. Akadosh Baruch Hu, comme on a dit, il nous donne la Torah.
Tu te noies pas avec ça.
Ok.
Ça fait une bouée.
Donc, Kedirti comme il est écrit, Velo Ikanef Od Morecha. Lorsque ma chère viendra, ton maître ne se cachera plus. Je suis en bas de la page 31. Hein. Pirouche, ça veut dire, Shelo Itkase Mimcha Bikna Velevouche. Ça veut dire qu'il ne se cache, il ne se couvrira plus de toi. Veayu Enecha Ro'od Et Morecha. Lorsque ma chère viendra, tes yeux verront ton maître. Urtiv, il est écrit aussi toujours dans Isaïe, Ki Aïn De Aïn Yirou. Œil dans œil, on verra Dieu. Comme on dit en français, on le verra dans le blanc de l'œil. Ça veut dire que tu le verras, directement. Tu le verras dans toute sa manifestation. Octive, et il est écrit aussi un autre verset, toujours dans Isaïe. Lo yelecha, c'est des images, mais maintenant on comprend ces images. Lo yelecha od hashemesh le'or yomam. Ce ne sera plus le soleil qui t'amènera à la lumière du jour. Ki hashem yelach le'or olam, mais plutôt Dieu qui sera porteur de lumière éternelle. C'est des images, tout ça. C'est pour te dire que, aujourd'hui, quand je dis lumière, ben, lumière pour moi, c'est le soleil. Lorsque à ma chère on dira lumière pour moi ne sera pas le soleil, lumière sera Dieu. D'accord ? Maintenant parlons de ma chère. Ma chère, c'est la finalité de ce monde. Ça veut dire que, qu'est-ce que fait Kadosh Baruch Hu ? Kadosh Baruch Hu, il nous crée dans un monde dans lequel il est invisible, mais c'est quoi le but ? C'est que, on va repousser l'obscurité, jusqu'à un moment Dieu il dit bon, on a assez repoussé l'obscurité, et là c'est ma chère. Ça veut dire que dès le départ, pourquoi Dieu a créé le monde ? Il a créé le monde pour cette finalité. Vous me suivez ? C'est-à-dire, ce n'est pas qu'il dit, bon, au début il a créé le monde, après ça s'est mal terminé, il dit, bon, allez, on va réparer, après on verra. Non. Dès le départ, depuis qu'il a créé le monde, il a prévu tout dans ce plan. Dès le départ, il a prévu que d'abord il va créer un monde, que ce monde deviendra de plus en plus obscur, et qu'après, progressivement, on devra mettre de plus en plus de lumière, et qu'à un moment, il estimera qu'il y aura assez de lumière, et là c'est ma chère. C'est prévu dans le plan d'Akadosh Baruch Hu. C'est prévu dans le plan qu'il y a lumière-obscurité. Il y a ce jeu de lumière-obscurité. Donc le monde a été créé pour ça. Je passe à la page 133. Ce qui est intéressant, et c'est ça ce qui est curieux. 132. Venoda, il est connu. En bas de la page 132, il est connu. Sheyemot HaMashiach, que les temps messianiques. Ou bifrat kesheiru ametim, et en particulier la résurrection des morts.
C'est pas le même bouquin que j'ai mis, quoi.
Peut-être un autre livre.
Qu'est-ce qui se passe là?
Non, mais.
On n'est pas sur la même.
C'est 26, là, c'est 2653.
Ouais, 132, non, là.
Mais je suis à 132, mais j'arrive pas à vous suivre.
Là.
Non, 26.
Vous n'avez pas le
fermé, fermé. C'est quoi? Est-ce que c'est 26?
Vous avez le volume 3 ou 25?
Je cherche, depuis tout à l'heure, je cherche. J'ai peut-être bien.
Ça fait 10 ans qu'on a commencé, pas américain.
David, amène leur s'appeler des volumes 2 là-bas.
Mais depuis une heure, je cherche, j'ai dit bon, peut-être qu'il.
Eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous avons eu la lumière. Voilà, on a découvert.
Ça veut dire ce que dit le Pirkei Avot? Il dit celui qui a honte, il apprend pas.
Exact.
Ça fait vraiment penser un peu. On parle de lumière très vive, de radiation. Moi, ça fait penser un peu à une guerre nucléaire, de radiation.
Ben, c'est ça.
Non,
c'est l'énergie dans une.
Là, on parle de la vraie lumière. David, 3, toi,
un fin de jour. C'est. On dit que le monde a été effacé, recréé plusieurs fois. Avant d'être tout le monde.
Oui.
Donc, est-ce que sa finalité, c'était de l'effacer au départ?
Sa finalité, c'est de. Enfin, effacer et récréer. Bon, ça, c'est pas simple, ça. Est-ce que c'était dans son imagination, ou est-ce que c'était vraiment concrètement. Pas simple.
Ah, voilà.
132, volume 2.
La lumière est là.
Voilà, la lumière est là. Et la lumière fait.
Ça veut dire que les paroles sont plus fortes que les pages.
Donc, page 132. Venoda, il est connu. Chez Yemot Amashiach, que les temps messianiques. Ou Bifrat, que chez Yerku Ametim. Et en particulier, la résurrection des morts. Em Tachlit ou Shlemut Briat Olamazé. Sont la finalité et la plénitude de la création de ce monde. Chez les Kach Nivra Mitrilato. C'est pour ça qu'il a été créé dès le départ. Je saute la note. Vegam. Ce qui est intéressant aussi. Vegam. Aussi. Kvar Aya Le Olamim Me Enze Beshat Matan Torah. Ce qui va se passer dans les temps messianiques, s'est déjà passé au moment du don de la Torah. Ah, c'est curieux, là. Ça veut dire que là, maintenant, il faut qu'on explique qu'est-ce qui s'est passé au don de la Torah.
Exactement.
Et là, vous allez voir que tout va s'expliquer. Kedirtiv, comme il est écrit.
Ah, le dévoilement, peut-être, c'est ça.
Voilà. Ata or eta la tarat. Tu nous as montré, de façon à ce qu'on a pu comprendre, qui Hachem ou Elohim, que Dieu, donc que Hachem, l'Éternel est Dieu, en od milvado, il n'y a rien d'autre contre lui. Ça veut dire comme ça. La grande finalité, la grande finalité, il n'y a rien par lui. Ça veut dire que la grande finalité que nous attendons tous, Mashiach, est une finalité qui a déjà eu lieu une fois, au don de la Torah. Lorsque Dieu a donné la Torah,
est-ce que c'est ça?
À ce moment-là, lorsque les bénis Israël voyaient la table, ils ne voyaient pas la table, ils voyaient l'énergie de Dieu qui fait vivre la table. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'on est encore là aujourd'hui? Ça veut dire, il y a eu la création de l'homme, Adam Harishon, d'accord? Donc il y a eu la création, voilà, et bon, après, il y a eu les faux d'Adam, après on est descendu, après on est remonté, on était en Égypte, on est sorti, on a reçu la Torah, et là, au moment où Dieu nous donne la Torah, à ce moment-là, on c'était comme si que Mashiach était là.
La première ou la deuxième table?
Il n'y a pas eu les tables encore. Les tables, c'est après. C'est pas comme dans le film. Hein.
Donc, ils avaient
quand Dieu il nous donne la Torah, il n'y a pas les tables de la loi. Okay. Les tables de la loi, c'est après. Moi, ils y vont aller chercher. Je sais que dans le film, il descend directement avec les tables de la loi, mais c'est pas comme ça.
Il y a la musique et tout.
Il y a la musique, il y a Moïse comme ça, hein, avec le bâton. Il n'y a pas de tables. Moïse, au début, on entend Dieu nous parle, les 10 commandements.
Dans le rôle de Charles David.
Et après, Moïse va monter pour chercher les tables de la loi. Pendant 40 jours. Pour prendre les premières tables de la loi. Reprenons notre sujet.
Là, on parle. C'est
là, c'est les 10 commandements. Je parle pas des tables, je parle des 10 commandements. Lorsque Dieu nous donne les 10 commandements, pendant la Aseret HaDibrot, à ce moment-là, il y a un niveau qui est tellement élevé chez les Bnei Israël, à ce niveau-là, on voit Dieu. On voit Dieu. Alors, il y a plusieurs choses qui illustrent ça. D'abord, première chose, vous savez, c'est écrit que lorsque Dieu a donné la Torah, il est écrit que Vechol Ha'am Ro'im et Akolot. Le peuple voyait les voix. Voyez les voix. Est-ce qu'on peut voir une voix?
On entend les voix.
Voilà, on ne peut pas entendre. On peut entendre une voix, on ne peut pas voir une voix. Comment on peut voir une voix? C'est pas possible. Il explique, c'est ça ce que ça veut dire. Voir une voix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on voyait l'énergie de chaque chose. Ça veut dire, par exemple, il y a une voix qui arrive, tu as un spectre qui arrive, enfin, tu as une onde vocale qui arrive. C'est pas seulement tu l'entends, tu vois l'énergie de l'onde vocale, tu la vois, tu vois l'énergie divine qu'il y a dedans, chaque chose. On connaît aussi le Midrash qui dit que lorsque Dieu a donné la Torah, c'était une voix extraordinaire, une voix énorme, une voix très puissante. Mais c'est une voix qui n'avait pas d'écho. Une voix qui n'avait pas d'écho. On avait fait un cours une fois, ça fait quelques mois sur ça, ça fait quelques années. On avait expliqué, on avait dit, ça veut dire quoi que la voix n'avait pas d'écho? Pourquoi Dieu a fait ce miracle que la voix n'a pas d'écho? Normalement, quand tu as une voix très très puissante, elle a forcément un écho. Et qu'est-ce qu'on avait expliqué? Naturellement, c'est comment se forme l'écho? L'écho se forme lorsqu'il y a une voix qui forcément doit être arrêtée par un obstacle. Et donc, l'obstacle arrête la propagation de la voix et il la renvoie, et c'est ça l'écho. Maintenant, si l'obstacle est un obstacle qui absorbe la voix, par exemple, je mets des plaques, des plaques d'œufs, comme ils font dans les studios, maison, quoi. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, je peux avoir une grande voix, d'accord? Je peux avoir une bave qui met un grand son, mais étant donné qu'il n'y a pas d'obstacle, il y a un obstacle, mais que l'obstacle absorbe la voix, du coup, il n'y a pas d'écho. On est d'accord? Bon. Si on nous dit que lorsque Dieu a donné la Torah, il n'y avait pas d'écho, spirituellement, ça veut dire quoi? Pourquoi il y a un écho? Pourquoi on aurait pensé qu'il y a un écho? S'il y a un écho, ça veut dire que il y a un objet qui peut former un obstacle à la voix de Dieu. Il y a la voix de Dieu, il y a un objet qui peut former un obstacle. Mais au moment où on a reçu la Torah, il n'y avait aucun objet dans le monde qui pouvait former obstacle à la voix de Dieu. Tout absorbait la voix de Dieu. Il n'y a aucun objet qui peut dire, moi je ne refuse la parole de Dieu.
C'est pour prouver aussi qu'il n'était pas caché.
Voilà, pour prouver que c'est une... Alors, maintenant, ce qui s'est passé, c'est que... Ah non, ça absorbe. Au contraire, ça absorbe, c'est le plus haut niveau quand ça absorbe. Ça veut dire que tu le prends directement, tu le rejettes pas.
Mais c'est pas par exemple une montagne, c'est comme une chose qui veut dire David, c'est pas passé de l'autre côté.
Non, mais il n'y a pas besoin. Ça emplit le monde entier sans faire d'écho parce que ça intègre chaque aspect de la matière. Et ça, c'est unique. C'est unique à ce qui se passe dans la Torah.
Ça traverse.
Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez me dire, voilà, alors, si on a eu le don de la Torah et que voilà, on est encore là aujourd'hui, qui me dit que lorsque Mashiach va venir, ça va pas durer quelques instants et après ça va se terminer? Ce qui s'est passé, c'est qu'au don de la Torah, ça a duré quelques instants. Pendant quelques instants, ça a duré. On ne sait pas combien de temps. Peut-être quelques secondes, peut-être quelques secondes, ça a duré. Peut-être quelques millisecondes. Ça a duré pas longtemps. Il y a eu une phase dans laquelle les Bnei Israël, notre corps a ressenti ça. Il a ressenti que c'était possible de, voilà, on ressentait Dieu, on ressentait, il était là, on le voyait. Mais en fait, notre corps n'était pas prêt à ça. Et comme notre corps n'était pas prêt, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on est tous morts. On est tous morts. Et c'est écrit qu'à deux reprises, Dieu nous a ressuscités. C'est écrit clairement.
Donc on avait
pas... Et d'ailleurs, ce que je vous dis, c'est même pas des midrashim, c'est écrit clairement dans la Torah. C'est écrit que les Bnei Israël ont entendu le premier commandement, ils sont morts.
Oh, c'est préparé, non,
car... Dieu les a ressuscités. Ils ont écouté le deuxième commandement, ils sont encore une fois morts. Dieu les a ressuscités, et là ils ont dit à Moïse, ils ont dit, écoute, tu vas dire à Dieu, il te dit les huit autres, et tu nous le répéteras.
Alors c'est quoi le sens?
D'accord. Et d'ailleurs c'est pour ça, vous prenez Torah, Tzivalanu, Moshe. Torah, valeur numérique 611. La Torah, Moshe nous a ordonné. Parce que qu'est-ce qu'on a entendu de Moïse? Seulement 611. Les deux autres, on les a entendus directement de Dieu. Deux premiers commandements, on a entendu de Dieu. Torah, valeur numérique 611. Torah, Tzivalanu, Moshe. Moshe nous a donné 611. Pour vous dire que c'était un niveau exceptionnel. Ça veut dire que on était à un niveau dans lequel Dieu nous a boosté à un niveau extraordinaire dans lequel on ressentait Dieu, mais notre corps n'était pas prêt à ça. Donc comme notre corps n'était pas prêt, il explosait. Alors pourquoi Dieu a fait ça?
C'est ça, voilà, c'est ça que je comprends.
Pourquoi Dieu...
C'est pas tout à fait absorbé, je pense pas. Absorbé, c'est-à-dire quelque part, tu l'intègres. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas deux entités, je dirais. Il y avait l'entité,
oui,
de la voix
Notre corps a absorbé sans aucun problème.
Quand tu l'as
parlé,
c'est
quelque
part intégré. Il a pu résister.
Intégré, mais il n'était pas prêt, il ne pouvait pas être prêt. Alors David a posé une question tout à l'heure.
Moi, je ne sais pas si je me trompe, mais je verrais plus le sens absorbé. C'est comme finalement le corps et la voix, finalement, c'était indissociable. Ça était ensemble.
Non.
Parce que absorbé, c'est-à-dire qu'un élément, il va absorber un autre élément.
Non, absorbé, non, intégré. Intégré, ça rentre en moi. Intégré.
C'est pas le mot absorbé.
Alors, je réponds à la question de David. David, il a posé une question. Il a dit, mais on s'est préparé pendant 49 jours. C'est vrai. On s'est préparé, on a essayé de travailler notre caractère pendant 49 jours. Mais c'était pas assez pour nous préparer à ça.
C'est ça.
Maintenant, d'un autre côté, il était important pour Dieu de le faire, au moins une fois, pour qu'on sache. Pour qu'on sache comment c'était et comment ça sera. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un témoignage qui est écrit dans la Torah et qui a été confirmé par des millions de personnes qui étaient présentes et qui ont vu ça, et qui eux-mêmes ont raconté à leurs enfants, ils ont dit, on a vécu un grand moment. Et ils se rappellent de ça. Maintenant, c'est vrai que ce grand moment, c'est une sensation qui a duré quelques secondes et qui s'est terminée. Mais du fait qu'on sait qu'une fois on a réussi et qu'une fois on l'a senti, maintenant, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous dit, écoutez, mon but, c'est pas non plus de vous envoyer cette grande lumière pour vous éblouir, pour vous tuer. Vous avez bien compris. Mon but maintenant que vous avez compris où vous pouvez aller, et que vous savez où vous pouvez aller, mon but maintenant, c'est de vous donner la Torah. Et vous allez travailler la Torah et les mitzvot, et vous allez illuminer le monde autour de vous, et vous allez vous immuniser avec la fameuse crème. Comme ça, lorsqu'arrivera le jour J, et que je vais vous remettre encore une fois la même lumière que j'ai mis au don de la Torah, cette fois-ci, vous n'allez pas brûler. Tant que Dieu il n'amène pas Mashiach, c'est qu'il estime qu'on n'est pas encore prêt. On n'a pas mis assez de crème encore. Il dit, moi, je ne sors pas le soleil, pourquoi je ne veux pas vous brûler? Donc il dit, moi, on attend, on n'a pas de problème.
Je voudrais poser une question par rapport aux deux premiers commandements.
Oui.
Tu dis que la voix était dans le monde entier.
Oui.
Tout le monde l'a donc entendu.
Vu.
Cuit de...
On l'a vu carrément.
Qu'en est-il des autres peuples?
Tout le monde l'a vu.
Non, mais est-ce qu'ils sont morts? Puisque les
gens
sont morts.
Non, parce qu'ils étaient
pas. Les autres peuples ont entendu la voix, mais ils ne l'ont pas vue.
Ah, ils ont fait
qu'entendre. Les autres voix ont entendu une voix qui parlait. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Bon. Nous, on n'a pas seulement entendu. On a vu l'énergie de la voix. On a vu l'énergie divine qu'il y avait dans la voix. Donc, notre corps n'a pas tenu. Il a explosé. C'était trop fort. C'est trop, il n'a pas tenu.
Mais cette mort, ils ne se sont pas rendus compte.
Si, ils se sont rendus compte.
C'est l'âme qui est partie.
Ah, l'âme est partie, bien sûr. Si vous voulez, c'est trop puissant pour le. C'est comme un chargeur. On a mis un voltage trop élevé, ça a explosé.
Le fusible.
Donc bon, alors on a mis un nouveau fusible. Mais ça ne peut pas tenir. Il n'y a rien qui peut nous préparer à ça.
Mais il faut préparer le corps.
Il faut le préparer.
Il faut le préparer à l'intégration. C'est-à-dire que nous, ce qu'on connaît, je pense, c'est parce que nous, on nous a transmis. Le début, les deux premiers commandements, c'était pour leur apprendre que ça prenne sens, qu'il y a un sens dans ce qu'il n'a pas fait.
Qui dit, monsieur Jeff, c'est bien, mais qui nous dit qu'on sera prêt?
Alors, parce qu'il nous a donné la Torah pour ça. Alors, je voudrais.
Le cinéma, c'est quand lundi, une petite
précision. Juste, je voulais rajouter un point de seconde important. Si vous avez remarqué, il a parlé de deux choses. Il a parlé de l'époque messianique et de la résurrection des morts. Il a dit l'époque messianique et en particulier la résurrection des morts. Pourquoi il a scindé ça en deux choses? Parce qu'en fait, c'est deux époques différentes.
Ah oui.
C'est deux époques différentes. D'abord, il y a la venue de Mashiach, dans lequel, lorsque Mashiach va venir, il y a une partie des gens seulement qui vont ressusciter, que les grands tzadikim. Tzadikim vont ressusciter. Mais le reste ne vont pas encore ressusciter. Une période, les avis divergent, d'après la majorité des avis, une période qui va durer 40 ans. Et après, au bout de ces... Donc, pendant ces 40 ans-là, ça sera... on ne verra pas encore clairement Dieu. On sera en une période d'adaptation. Et après, alors là, attention, à partir de... dès l'instant où cette période commence, il n'y a plus de mortalité. Il n'y a plus de mortalité, il n'y a plus de maladie, etc.
Il faut commencer à allumer, là.
Hein. Ah oui.
Ah oui, alors là...
On va allumer le feu. D'accord. Alors, et après, à l'issue de ces 40 ans, c'est là que tous les morts se réveillent. Je me disais, où il y aura de la place? Hein, ne vous inquiétez pas, il y aura de la place pour tout le monde, pas de problème. Donc, c'est là que tous les morts se réveillent. C'est là que tous les morts se réveillent. Et c'est là qu'on arrive à la phase finale dans laquelle on voit Dieu. Et on le voit autant qu'on l'a vu au don de la Torah, mais sans être ébloui. Alors, ce qui va se passer, c'est que quand Mashiach va venir, les mécréants, il y en a peu aujourd'hui, mais les mécréants, ils vont se brûler, mais là, ils ne vont pas être renouvelés, ils vont pas être ressuscités comme Dieu a fait au don de la Torah. Ils ne vont pas être renouvelés. Alors, Dieu dit, ça y est, c'est fini, bah, t'es brûlé, c'est fini. D'accord? Game over. Mais.
C'est-à-dire, même les mécréants chez nous?
Bien sûr.
Mais alors, d'un autre côté, dans les Pirkei Avot, on dit.
Voilà, parce qu'on estime que, justement, parce qu'on estime que même ceux qu'on pourrait appeler aujourd'hui les mécréants, c'est pas des vrais mécréants. Ils ont beaucoup de mitzvot.
Oui.
Le Olam Haba, c'est
Matamashiach.
C'est avant ou après?
Ah non, c'est aussi ça, bien sûr. Il y a les deux, il y a deux façons de comprendre, mais c'est aussi ça.
Le Olam Haba, c'est avant.
Le monde futur. Une phase d'adaptation. Bien sûr. Bon, j'ai pas envie de bâcler. Je prends une bâcler parce que ça c'est un sujet qui nécessite encore beaucoup de réflexion et beaucoup d'explications. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Et les juifs,
une bonne question. Il faut qu'on parle, on traite ça. Hein.
Si on fait les cousins. Non, plus.
Bon, résumons. Pour pas qu'on s'embrouille. Résumons ce qu'on a expliqué aujourd'hui. Rabotaille. Messieurs, on a expliqué aujourd'hui la chose suivante. La particularité, le plaisir qu'il y a dans ce monde, que je peux procurer à Dieu dans ce monde en faisant une mitzvah, est un plaisir incommensurable avec ce qu'on peut avoir en haut. C'est un plaisir extraordinaire. C'est comparable au plaisir d'allumer une lumière dans un endroit, mais une petite lumière dans un endroit où il y a l'obscurité. C'est ça ce qu'on fait exactement quand on fait une mitzvah. Donc ça, c'est un plaisir que Dieu ne peut retrouver nulle part ailleurs. Seulement dans un monde qui est obscur, un plaisir qu'on ne retrouve pas au Gan Eden, qu'on retrouve nulle part ailleurs. On a expliqué aussi que à Kadosh Baruch Hu, étant donné qu'il sait que c'est un challenge très compliqué, il nous donne une force extraordinaire pour le faire, pour réussir. C'est quoi cette force? C'est la Torah. La Torah, non seulement qu'elle nous aide à réussir ce challenge ici-bas sur Terre, mais la Torah aussi nous immunise pour nous permettre de pouvoir tenir plus tard, lorsque Mashiach viendra, de ne pas brûler. On n'a pas encore fini ce sujet-là, cette histoire du monde futur, brûler, pas brûler. On est encore en plein milieu, donc je ne veux pas bâcler. Il y a encore beaucoup, beaucoup à dire dessus. Parce qu'après, on va parler du 7e millénaire, il y a le 6e millénaire, il y a le 7e millénaire, et quel est le but de chacun, et combien de temps il va durer, et est-ce qu'on vivra dans ce corps, est-ce qu'on vivra pas dans ce corps, et est-ce qu'on continuera à se lever, est-ce qu'on va s'arrêter, est-ce qu'on va se reposer? C'est des grandes questions qui sont pas simples du tout. Et est-ce qu'on continuera à faire des efforts lorsque Mashiach viendra? C'est des questions existentielles, ça. C'est des questions très, très importantes. Mais, je laisse ça pour la semaine prochaine.
Mais quelqu'un qui est mort avec un membre, en moins.
Ah oui,
comment il va revenir?
Il va revenir, il va être guéri.
Il est mort sans. On lui a fait transplantation de cardiaque, il a plus de cœur. On l'a enterré, il a plus de cœur.
Eh ben, on va lui mettre un nouveau cœur.
Il y en a un autre qui est mort.
Non, mais il y a une régénération du cœur.
Il n'y a pas de problème.
Vous avez vu le tumeur de Michael Jackson?
Mais si je me trompe, j'ai l'impression
qu'il y
a une quarantaine d'années. Une goutte de 45 ans.
Oui.
L'époque ne parlait pas de.
J'ai l'impression que c'est tout nouveau, ça. Parce qu'avant, les rabbins, les tzadikim avaient...
Non, mais les Lubavitch... Ils gardaient ça pour eux, peut-être.
Comment ?
Ils gardaient ça pour eux.
Les Lubavitch, Lubavitch avaient une puissance régionale, maintenant elle est mondiale.
Oui, ils n'aiment pas parler de ça. Oh, certains disent qu'elle a existé, d'autres disent non.
Mais Gog et Magog, tu as plusieurs exemples de Gog et Magog.
Ils ne parlent pas, ils ne veulent pas.
Non, ça c'est popularisé, c'est démocratisé.
Mais parce que. Parce qu'il faut se préparer. Oui,
c'est bien. On est plus avancé qu'il y a 40 ans.
Voilà. Bon, méditez bien à tout ça, on continue la semaine prochaine.